Très bien. Merci beaucoup d'être venu. L'ADEF en grande représentation. Là.
On ne s'est pas présenté non plus. Hein.
Ah pardon, oui, non, excuse-moi.
Ça, c'est quand on arrive en retard, forcément.
Non, bien sûr, bien sûr.
Voilà. Donc moi, je suis principale de collège aujourd'hui au Blanc-Ménil. Enfin, au Blanc-Ménil, à Bobigny. Je ne suis plus au Blanc-Ménil, je suis à Bobigny. Mmh. Et donc, l'interculturalité. J'ai rencontré Stéphane il y a quelques années quand j'étais au Blanc-Ménil. Avec une conférence auprès des personnels médicaux sociaux. Et donc, je trouve que c'est. Enfin, à chaque fois que je viens aux rencontres, je repars avec un autre éclairage et des références, une ouverture, et puis pour que ce travail au quotidien puisse se faire dans la manière la plus fluide possible pour moi et puis pour les autres. Voilà. Stéphane,
Moi, c'est une question qui m'intéresse depuis très longtemps. Donc, moi, je travaille dans l'éducation nationale, je suis coordonnateur REP, après avoir été pendant 20 ans conseiller principal d'éducation, donc sur Paris, donc je travaille avec un public très, très divers. Mm-hmm. Et justement, c'est la question que vous posez, de la prise en compte justement de cette dimension dans les relations entre les administrations françaises et les populations. Et un vrai sujet qui reste encore. Malheureusement, d'actualité.
Et qui met en crise les institutions françaises, hein, quelles qu'elles soient. On le voit avec la police, avec l'éducation nationale, avec les urgences, enfin, les unes après les autres. C'est très, très, très intéressant de voir comment ça se passe.
Moi, je suis sa fille. je rends visite à ma mère pour un mois. Elle m'a dit, je viens. Mais ça, le sujet m'intéresse. Ça fait 6 ans et demi, bientôt 7 ans que je suis partie de la France. Et ça fait maintenant presque 2 ans que je voyage un peu partout dans le monde. Et revenir ici sur ce sujet qui, même quand j'étais en France à l'époque, était déjà très sensible et l'a toujours été au final, pouvoir en parler aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup. Donc je suis là vraiment juste pour écouter, quoi.
Merci. En tout cas, Nana et Stéphane, je vous ai remercié dans le livre pour votre soutien. Hein.
Ah
bah oui.
Merci.
Oui, non, parce que ces 10 années n'ont pas été toujours très très faciles, parce que c'est un sujet qui est quand même un peu périlleux, un peu. Et donc la permanence de votre présence a été quand même quelque chose de très 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 motivant et qui reste motivant. Merci. Donc c'est pour ça que explicitement je vous ai remercié.
Merci.
Et puis alors,
excusez-moi.
Non mais je vous en prie, mais on est en train de finir le tour de table.
Il y a encore de la place devant.
Il y a encore de la place devant.
Place tout devant.
Voilà.
Désolée pour le retard.
Non, je vous en prie. Et peut-être simplement nous dire.
Vous avez bénéficié.
Voilà.
Donc Olivia Andrea, infirmière au CMP Rochefort, et j'ai assisté au cours des U Santé des migrants qui était dirigé par Monsieur Stéphane Tessier.
Voilà. Et qui continue l'année prochaine. Il y a encore des places d'ailleurs. Si ça vous intéresse, DU Santé des migrants, on a encore des places.
Engagez-vous. Vous verrez du pays, disait-on, durant l'époque coloniale pour recruter les futurs soldats. Voilà.
Oui. Bon. C'est une bonne introduction.
Bon, oui, bien, voilà. Donc, tout d'abord, je suis ravi d'être là. Et vous voyez que ma tête, mon état de santé n'est pas encore quelque chose de tout à fait satisfaisant. Donc j'espère pouvoir tenir entre 1h30 et 2h. Et si tout d'un coup la fatigue me tombe dessus, je suis en chimiothérapie, hein, c'est assez visible. Et là, je suis seulement à mon 4e jour de cure, donc le 4e jour, je peux avoir des coups de fatigue terribles. Voilà. Mais ceci dit, quel plaisir. Oh, quel plaisir d'abord de retrouver Stéphane, bien entendu, mais Stéphane, on ne l'a jamais perdu depuis ces dernières années. Donc, avec Stéphane, les choses continuent à avancer, et elles continuent à avancer avec un grand courage, une grande détermination. Il le disait tout à l'heure, ce type de démarche, c'est pas le long fleuve tranquille. C'est clair. Hein, alors, moi, je vais en juste quelques mots, essayer de vous expliquer mon itinéraire, parce que j'ai, par rapport à la démarche interculturelle de Stéphane, des expériences qui sont nécessairement différentes, complémentaires. C'est cette richesse de la construction des dialogues qui a fait que depuis 25 ans, nous sommes ensemble, dans nos différences, en train d'avancer pour essayer de faire reconnaître la place et le rôle de l'interculturalité, non seulement dans la société en général, mais dans les types de formation, parce que c'est d'abord là où il faut mettre le doigt, et parfois mettre le doigt, c'est rentrer dans des choses et ça fait mal pour certains de ceux qui reçoivent ce type de démarche et de message, et pour nous aussi, parce que nous nous rendons compte que finalement nous sommes toujours encore insuffisamment compétents pour avancer. Nous sommes toujours, nous aussi, en apprentissage, et pour moi en particulier, je le dis sans fausse modestie, j'ai découvert dans la démarche de Stéphane, et extrait de cet ouvrage, un certain nombre de choses auxquelles je n'avais pas pensé, et donc qui m'ont enrichi. On va essayer de les partager. Alors, je suis anthropologue, africaniste. J'ai commencé mon premier terrain au Sénégal en 1969, donc vous voyez, 50 ans. 50 ans d'humilité face à la différence extraordinaire à laquelle je suis confronté quand j'arrive en janvier 1969 au Sénégal. Je suis déjà préparé à... J'ai commencé à apprendre la langue, Wolof, etc. Mais je tombe dans le chaudron. Et de cette première expérience va naître un certain nombre d'interrogations pour lesquelles je n'ai pas encore forcément les réponses maintenant. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça motive sur la longue durée l'ensemble des implications. Et ça vous renvoie à une très grande humilité. Il faut être humble devant la difficulté à comprendre, à entrer dans les phénomènes d'altérité, car, je l'expliquais souvent à mes étudiants, c'est au moment où on croit avoir compris qu'on s'est planté, qu'on est dans l'ethnocentrisme le plus abracadabrantesque, disait le président Chirac jadis. On est donc toujours en position de se planter, et ceci suppose des remises en question constantes. Alors, mon objet primitif, primordial même, je dirais presque, c'était le droit. J'ai, à cause de mon père qui voulait pas que je fasse de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie naturellement, mon père m'a donc obligé à faire des études de droit, d'abord pour me dire au moins tu auras une profession reconnue et satisfaisante. Bon, eh bien, j'ai accepté de faire du droit, qui m'a conduit quand même jusqu'à une agrégation que j'ai magnifiquement loupée. Mais j'ai quand même présenté l'agrégation de droit, et on m'a fait comprendre que anthropologue et africaniste, jamais je ne pourrais devenir professeur agrégé de droit. C'est une récompense extraordinaire, parce que ça m'a libéré de tout un ensemble de suggestions à l'égard de la profession de professeur de droit, en particulier à l'université, à la faculté de droit de Paris à l'époque, et maintenant dans les universités de Paris 1, Paris 2, le dogme du conformisme, du positivisme le plus grand. Alors, donc, j'ai choisi le droit, et en Afrique, j'ai choisi de travailler sur les rapports fonciers, parce que les rapports à la terre sont généralement extrêmement peu étudiés, mais à travers ce rapport à la Terre, c'est toute la société qui se dévoile. On rentre dans, naturellement, l'économique, le politique, le juridique, le symbolique, etc. Et donc, je suis rentré dans une société, les Wolofs, alors une société esclavagiste, disons, absolument pas le côté des dogoneries dont, à l'époque, quand je faisais ma formation d'anthropologue, les Wolofs, non, une société esclavagiste, proto-État, avec des structures sociales extrêmement rigides, etc. Et je rentre là-dedans, et j'ai donc ma formation d'anthropologue, ma formation de juriste, et je m'aperçois que je veux travailler sur les rapports fonciers, et qu'il n'y a pas matière à propriété de la terre. Et pourtant, il y a des rapports juridiques qui sont formés par les acteurs. Mais ils ne s'expriment pas à travers ce que nous considérons comme être la structure canonique fondamentale. Je suis encore dans les années 60, à un moment où le néolibéralisme n'est pas encore si prégnant qu'il refaçonne maintenant complètement. Nous ne pouvons plus penser qu'à l'intérieur des catégories de propriété est privé le plus souvent. À l'époque, c'est déjà important. Et moi, j'arrive dans une société bien organisée, pas de propriété. J'avance un peu et je m'aperçois que ce que nous appelons droit en Occident, je ne le retrouve pas là. Pas de propriété, pas de droit. Et pourtant des structures sociopolitiques qu'il va falloir pouvoir expliquer. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment je m'en suis sorti, mais il m'a fallu 30, 40 ans parfois pour arriver progressivement à apporter toutes les solutions scientifiquement. Et par exemple, c'est en 2011 seulement, dans un ouvrage qui s'appelle « La Terre de l'autre », où je peux synthétiser l'ensemble des avancées de mes travaux. Tout ça pour vous dire que cette démarche anthropologique suppose effectivement, et sans quoi que ce soit qu'on puisse en dire d'autre, l'humilité. On est humble devant l'altérité et on accepte d'entrer, de sortir de nos catégories. Tout est remis en question dans mon travail. La notion d'État, la notion de souveraineté, la notion de droit, donc je vais substituer progressivement à la notion de droit dans ses généralités un autre concept, la juridicité. Je ne vais pas rentrer dans ces explications-là, mais simplement pour vous dire que quand on travaille vraiment l'interculturel, on s'aperçoit que tous nos outils cognitifs sont progressivement remis en question, ébranlés, interpellés, et parfois nous devons y substituer des catégories différentes, parce que celles que nous mobilisons sont ethnocentriques, et que trop souvent elles nous conduisent à un racisme implicite. Alors, c'est là où je vais faire le passage. Mes rapports au terrain en Afrique, c'est du Sénégal aux Comores, Comores où j'étais faire la réforme foncière, absolument passionnant, Madagascar, beaucoup ces dernières années travaillé sur la problématique sahélienne et en particulier le Mali, le Mali qui est aussi un pays qui m'est très très cher, je vois avec désolation ce pays se déliter totalement. J'ai beaucoup navigué en Afrique, mais je suis aussi venu travailler en France. Parce que je pensais que l'anthropologie ne devait pas être seulement la science des autres là-bas, de l'autre côté de la mer, dans les outre-mer, etc. Donc avec un risque d'exotisme. Elle devait aussi porter sur ce que nous, dans nos civilités, dans nos citoyennetés du quotidien, nous sommes capables de faire, et pourquoi, en imposant aux autres les cadres de la colonisation, avons-nous d'abord assez largement appauvri, voire détruit la capacité de ces sociétés à se reconstruire, à se retrouver, à inventer un futur, ils le font actuellement, un futur africain qui soit véritablement original, mais ça se fait actuellement, s'avère, Ingmar Bergman, hein, les cris et les chuchotements, hein, ça se fait dans des conditions qui sont extraordinairement difficiles. Et parce que, en Afrique en particulier, c'est une des questions sur lesquelles je travaille beaucoup actuellement, la décolonisation juridique ne s'est pas réalisée en fait. Les Africains continuent à être soumis à des catégories qui sont celles d'un droit qui se prétend universel et que moi, je prétends être simplement ce que les Anglais appellent un folk law, un droit d'ici, un droit particulier. Notre expérience du droit a été certes a tenté d'être universalisée, mais elle n'est pas en soi universelle. Elle peut peut-être le devenir, mais à condition de, j'allais dire, d'une cure d'amaigrissement, hein, ou en passer d'un type de démarche à un autre. Alors, le passage à la société française a essayé de comprendre, hein, avec les expériences accumulées en Afrique. Je commence à travailler sur ce passage à la société française au début des années 80, et c'est la justice des mineurs donc qui va m'offrir des possibilités de comparaison. Comparaison n'est pas raison, hein, mais comparaison permet de mettre en perspective un certain nombre de choses. En Afrique, j'ai travaillé sur quelque chose dont vous avez un petit peu entendu parler, hein, les palabres. Et je me suis aperçu que ce terme était un, je m'excuse du terme, mesdames, mais c'est un piège à con. C'est un thème qui, en fait, un attrape-nigaud, il couvre un certain nombre de réalités, et j'ai eu la chance dans pendant les années où j'ai enseigné à Brazzaville, de pouvoir travailler dans les tribunaux coutumiers et rentrer dans ces logiques à l'état pratique. Donc, à vraiment comprendre. Alors, ces logiques à l'état pratique, j'ai cherché en France s'il y avait des enceintes dans lesquelles on pouvait retrouver des phénomènes analogues. Analogues, hein, qui n'ont pas une continuité, mais qui permettent de poser les termes d'une comparaison. Et dans la justice des mineurs, la justice de cabinet réunit un certain nombre de paramètres qui font de moi, alors il y a une spécialiste ici qui va pouvoir répondre à vos questions, qui font de moi, de la justice de cabinet, une petite merveille, un petit bijou, un bijou civilisationnel de la civilisation juridique à la française. C'est pour moi absolument extraordinaire quand effectivement les magistrats ont les moyens de jouer le jeu. Et actuellement, vous le savez, il y a un certain nombre de prises de parole publiques, collectives, de magistrats, hein, qui soulignent la paupérisation, et pas simplement la paupérisation, la transformation même, hein, de la démarche, l'esprit de l'ordonnance de 1945, esprit es-tu là, hein, et bien non, il est en train d'être perdu. Et moi, je me suis passionné pour cette justice de cabinet, donc j'ai encore récemment continué à essayer de travailler, d'enrichir ce type de démarche. Et par la justice de cabinet, je suis rentré dans la place de la négociation en droit. À partir de cela, j'ai travaillé sur les procédures de médiation. Et je me suis rendu compte qu'il y avait dans notre société tout un ensemble de virtualités sur lesquelles nous ne travaillons pas suffisamment, ou dont nous sous-estimons la place, parce que nous avons dans notre tête, dans l'arrière de l'occiput quelque part, un certain nombre d'idées primaires, en fait stupides ou imbéciles, parce que faibles d'esprit, elles ne sont pas interpellées, elles ne sont pas interrogées, mais qui sont en fait des éléments absolument essentiels qui nous interdisent de penser la pluralité et le pluralisme dans la société. Donc la pluralité des voies de prise en charge des différents, par exemple, hein, et la place de la médiation par rapport à d'autres procédures, dont la procédure judiciaire. Donc le problème fondamental, et je vais m'arrêter là-dessus parce que faut pas que j'aille trop loin, c'est qu'en fait, quand en anthropologue on s'interroge sur ce qui fait vraiment problème dans notre société, eh bien, je dis que moi, c'est une représentation du monde qui est d'héritage judéo-chrétien, qui est en fait d'héritage hébreu, parce que un auteur dont le nom m'échappe tout d'un coup, bon, mes professeurs au Collège de France, là juste à côté, hein, disaient que ce sont les Hébreux qui l'ont inventé au 14e, 15e siècle avant Jésus-Christ. Et que c'est le monologis, monos, un seul, logos, discours, rationalisation. Et ce professeur disait, les Hébreux, avant d'être les donc monothéistes, les qui ont véhiculé, disons, une conception hein, de la société dans laquelle un seul Dieu préside à l'ensemble des croyances et des formes d'organisation. Donc avant cela, ils sont monologiques. Donc ils ont pensé le un seul avant le un seul Dieu. Et cette transmission du un seul, elle s'est naturellement faite par l'ensemble des héritages judéo-chrétiens repris par donc le christianisme, et qui vont se trouver ensuite organisés dans un certain nombre de grands rituels dans lesquels l'Église catholique, apostolique et romaine, par exemple au concile de Trente, hein, qui a la réponse catholique à la réforme protestante, vont affirmer disons, hein, le principe hein, du trois en un, Père, Fils, Esprit, dans un seul Dieu. Là, au milieu du XVIe siècle, on reconstruit ça, et cette idée du monologisme, elle se retrouve naturellement dans tous les principes d'organisation de la société, sur le plan juridique et politique, monarchisme, bien entendu, monopole, au niveau économique, tout ça. Ce monos, il est au cœur de nos... Et c'est ce monos qui est l'obstacle peut-être le plus fondamental à la possibilité même de développer le pluralisme culturel, l'interculturalité, voire ce qui moi m'apparaît être une revendication dans ma propre démarche, une transculturalité. C'est-à-dire pas simplement la rencontre, ce qui est déjà quelque chose, hein, et c'est l'objet de ce travail, comment faire se rencontrer hein, des référents culturels qui ne sont pas prêts à se recevoir l'un par rapport à l'autre, mais au-delà de cette rencontre, comment construire quelque chose qui soit en fait le reflet d'une culture du quotidien qui intégrerait, ouais, se donnerait l'ambition d'intégrer l'ensemble de nos référents culturels, de nos différences, hein, et de ne pas penser, ça c'est l'héritage aristotélicien, pas penser le monde comme fondé sur des contraires, sur des systèmes d'opposition, mais au contraire, fondé sur des complémentarités. Donc le grand enjeu, et je vais m'arrêter là, je trouve que c'était beaucoup trop. Mais hein, le grand enjeu de l'ouvrage de Stéphane hein, et de la démarche interculturelle d'une manière générale, c'est comment résoudre ce rébus d'une certaine façon qui est passer de systèmes d'opposition qui sont dans la tête. Hein, et tout à l'heure, je reprendrai peut-être un petit peu la parole pour vous parler de la question de la colonialité, hein, qui est l'objet principal de la préface. Parce que je voudrais tout à l'heure, quand on aura déjà un peu avancé, hein, revenir justement sur cette question de la colonisation, de la colonie, de la décolonisation, hein, qui est devant nous un enjeu, pas simplement dans les sociétés du Sud, mais chez nous. Il faut que nous nous décolonisions et que donc, mais ceci est terrible, puisque ça remet en question une partie de nos savoirs et de nos savoir-faire. Voilà, c'est un peu trop bavard comme toujours.